Voilà, c'est un plaisir d'être là ce matin, d'avoir traversé le canton de Genève, d'arriver juste dans le canton de Vaud, à la gare. Mais voilà, de venir partager ce temps avec vous ce matin pour prêcher, apporter une parole que j'ai envie de vous transmettre. Et j'espère ainsi ensemble nous encourager dans notre vie de foi. J'aimerais vous apporter les salutations de la paroisse de Carouge, qui chemine cahin cahin avec toutes les prescriptions sanitaires, devant s'adapter comme vous, avec masque, sans masque. Voilà, finalement, là, depuis 3 semaines, on fait 2 cultes pour ne pas dépasser la limite des 50, puis offrir à toute la communauté la possibilité de venir. Donc ça chamboule un peu les habitudes, parce que c'est soit 9h, soit 11h. Donc pour certains, c'est trop tôt ou trop tard, mais il faut choisir. Mais sinon, la paroisse de Carouge évolue aussi avec le pasteur Mwanza qui a terminé son mandat pastoral le mois dernier en arrivant à la retraite. Et on a fait une transition plus ou moins sur 1 an, mais depuis maintenant, c'est moi qui reprends le leadership pastoral dans la communauté. Et on poursuit avec notre mission, comme à vous, d'être lumière de Christ dans ce territoire, dans cette ville. Ce matin, j'avais envie de m'inspirer de la Genèse pour ce message. Et en lisant ce livre, et disons en particulier depuis le chapitre 12 jusqu'à la fin, où on a l'histoire de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je trouve qu'il y a beaucoup d'espérance dans ce livre et des choses assez incroyables, où on voit une destinée qui s'accomplit au travers d'un homme qui quitte son pays avec sa famille. Une destinée où il y a des naissances, il y a finalement un peuple qui naît d'Abraham, il y a une famille qui est sauvée de la famine, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent dans ces premières générations. Et en même temps, je trouve que c'est une lecture très effrayante, avec la manière dont la famille fonctionne, ou dont les familles qui nous sont relatées ici, de ces 3 générations, dans lesquelles vous trouvez de la tromperie, du mensonge, des trahisons, des secrets de famille, de la jalousie. Puis je pourrais continuer la liste, ou même des choses plus subtiles, comme quelqu'un qui se marie pour se conforter de la perte de sa mère. Puis ça, c'est la famille avec laquelle Dieu débute cette extraordinaire histoire qui va amener jusqu'à Jésus, qui est le rédempteur de notre humanité. Et Dieu commence avec un couple, en plus un couple qui est stérile. Et il y a toutes ces tracasseries et ces choses méchante, mauvaise, ce qui se passe dans cette famille. Et Genèse se termine, le livre de la Genèse se termine avec ce verset, au chapitre 50, au verset 20, probablement un de mes préférés dans la Bible, qui dit, et c'est Joseph qui s'adresse à ses frères lorsqu'ils avaient peur d'être jetés de côté par leurs frères qu'ils avaient trahis bien des années auparavant, et Joseph leur dit, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et là, à la fin de cette histoire finalement assez dramatique, il y a ce verset qui résonne comme une perle, comme une espérance, un pardon qui est accordé alors qu'il y avait de quoi ne pas pardonner. Mais on voit le cœur de Joseph qui a été touché par Dieu, et il est en mesure d'ouvrir l'espace pour ses frères et pour lui et leur famille en faisant grâce, en choisissant le pardon et non la vengeance, en manifestant là déjà une facette de qui est Jésus, de comment Dieu veut se révéler sur la terre. Et finalement, en lisant ces histoires, ça donne beaucoup d'espérance pour l'histoire de nos propres familles. Je pense que si je demandais à chacun d'entre vous de nous décrire un peu votre famille sur les 3 dernières générations, il y aurait certaines choses tout à fait similaires à ce qui se passe dans la Genèse. Et parfois, ça fait mal et on en souffre encore très fort là où nous en sommes aujourd'hui. Mais il y a cette espérance qui est donnée par Dieu au travers de Joseph, qui peut nous aider à cheminer aussi. Et il y a cette espérance que Dieu est là et va nous accompagner. C'est clair que ça n'enlève pas les conséquences de mauvais choix. Ça n'excuse pas le laxisme pour répéter des choses mauvaises qui se sont passées les générations précédentes. Mais ça ouvre néanmoins de nouvelles perspectives, une nouvelle voie, une espérance, non seulement dans cette parole de Joseph, mais bien sûr en Christ, qui est là pour restaurer, pour libérer, pour délivrer, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. et plus particulièrement ce matin avec la Genèse, j'aimerais m'arrêter sur cette notion de la promesse de Dieu par rapport au temps de Dieu. Dieu fait des promesses, et il en fait une à Abraham que l'on va lire. Et puis le temps dans lequel cette promesse se réalise, finalement, est souvent assez différent du temps que nous avons dans la tête lorsque nous entendons cette promesse. Et en tout cas, on peut le voir que c'était le cas pour Abraham. Abraham, son histoire débute dans Genèse 12, et Dieu s'adresse à Abraham au verset 1 et dit « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est une promesse qui va changer la vie d'Abraham. Abraham écoute Dieu, quitte son pays et se rend jusque dans le pays promis sur la terre de Canaan à ce moment-là. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je ne sais pas ce que vous entendez quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham a 75 ans, il est marié depuis probablement assez longtemps, on ne sait pas combien d'années de mariage ils ont fêté à 75 ans, mais il n'y a toujours pas d'enfant. C'est un couple stérile. Et Dieu vient et lui dit, je ferai de toi une grande nation. Que va-t-il se passer? Ou qu'est-ce qui se passe déjà dans la tête d'Abraham? Alors il quitte donc son pays, il arrive en Canaan, ensuite il va en Égypte et ensuite il revient. Et dans Genèse 13, quelques années après, on va dire, il y a l'histoire avec Lot où son neveu a tellement de bétail comme lui qu'ils n'ont plus assez de place pour rester ensemble et Lot part dans les plaines. Et Abraham fait confiance à Dieu en restant dans les collines et Dieu lui renouvelle la promesse ou il l'élargit un peu en disant « Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre ». En Genèse 15, un peu après, il y a de nouveau un moment fort entre Abraham et Dieu, l'alliance qui va plus loin. Et lors de cette alliance entre Abraham et Dieu, Dieu lui dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que toutes les étoiles ». Il lui dit même « Regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois ?»« Ben, je vois des étoiles. » « Et combien ?» Et Dieu dit « Ta descendance sera plus grande que le nombre des étoiles. » Puis après, on arrive dans Genèse 16. Et puis là, Abraham n'a plus 75 ans, mais il a 86 ans, 85 ans. Donc ça fait 10 ans qu'il a eu cette promesse d'être une grande nation. Puis il voit les aiguilles tourner quand même. 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez après 10 ans quand Dieu vous a fait une promesse? Alors Abraham et Sarah se disent qu'ils vont aider Dieu. Et ils élaborent un plan assez stratégique. En prenant la femme, la servante de Sarah, Agar, et Sarah lui dit, ben écoute, va avec Agar, et avec elle, tu auras des enfants, et voilà, ça sera une manière d'avoir une descendance. Et comme certainement vous connaissez cette histoire, ben oui, Agar a un enfant qui s'appelle Ismaël, mais ça se passe assez mal, après il y a des jalousies, il y a des conflits, et ça n'aide pas du tout la vie sous les tentes. Mais un peu plus tard, dans Genèse 17, Dieu revient vers Abraham et il y a de nouveau une alliance qui est faite et Dieu réaffirme très fortement auprès d'Abraham et lui dit « Je te multiplierai considérablement et tu deviendras père d'un grand nombre de nations. » Genèse 17, les versets 2 et 4. Donc Dieu insiste et dit à Abraham « Je vais te bénir et tu auras une grande nation. » Il ne fait pas référence à Ismaël par ailleurs. Donc c'est comme si c'est encore à venir. Puis ensuite, du chapitre 17 au chapitre 18, il y a un trou jusqu'à ce qu'Abraham ait 99 ans. Et là, on ne sait pas ce qui se passe pendant ces 14-15 ans. Donc ça fait presque 25 ans qu'Abraham a reçu cette promesse. Ça commence à faire long, hein? Je ne sais pas ce que vous faisiez il y a 25 ans. Je ne sais pas si c'est plus long quand on a 75 ou qu'on a 25, mais il me semble qu'à chaque saison, c'est quand même très long. Et finalement, donc Abraham a 99 ans. Et là, au chapitre 18, Dieu dit encore à Abraham, « Tu deviendras une grande nation et une nation puissante. » Et puis voilà, l'année d'après, finalement, Sarah est enceinte et met au monde un fils qui s'appelle Isaac. Donc lorsque Abraham a 100 ans et Sarah 90 ans, ils ont un premier enfant qui s'appelle Isaac. Et quelques années plus tard, dans Genèse 22, Abraham demande Dieu demande à Abraham de prendre son fils et d'aller sur cette montagne pour l'offrir en sacrifice. Et là, Dieu arrête le geste d'Abraham juste avant que ça soit trop tard. Et là encore, il réaffirme la promesse qu'il avait faite depuis 25 ans. « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et pareille au sable qui est au bord de la mer. » Donc Dieu fait une promesse extraordinaire à Abraham. Tu auras une grande nation parmi tes descendants formeront une grande nation. Puis en même temps, cette attente pour que la promesse se réalise devient de plus en plus insupportable. Tant Dieu, tu dis et tu me répètes que mes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. Puis en fait, avec ma femme, il n'y a rien qui se passe. Alors, on peut presque comprendre que Abraham et Sarah aient vidé des dieux. En tout cas, ils ont essayé de trouver des solutions. Alors, je ne sais pas si on comprend cette solution, parce que culturellement, elle est très différente de ce qui se passe chez nous. Mais sous d'autres termes, ce n'est peut-être pas si différent dans notre société d'aujourd'hui. Mais Abraham essaye, et finalement, ils ont cet enfant. Mais c'est du gâchis, c'est des tensions, c'est des jalousies, c'est de la discrimination. Et là, sur le coup, Abraham s'est très mal comporté quand il rejette Agar et son fils et qu'il les laisse pratiquement mourir dans le désert, si ce n'est l'ange de Dieu qui vient les sauver et leur donner de l'eau. C'est juste atroce. Et pourtant, Dieu continue avec Abraham, malgré ses erreurs, et il va un peu plus loin. Peut-être ce que l'on voit là, déjà, c'est que Dieu commence avec ce qui est tout petit. Bien qu'il dessine un immense plan pour parler d'une nation aussi nombreuse que les étoiles du ciel, en même temps, il commence avec quelque chose qui est tout petit. Et même qui est ridicule à nos yeux, parce qu'un couple stérile, comment est-ce qu'il peut devenir une grande nation? Mais Dieu est plus fort que cela, et à un moment donné, il va permettre que le ventre de Sarah s'ouvre et qu'il y ait un fils. Mais ils en auront juste un. Et à partir de un, de cet homme, d'Isaac, ça continuera. Et effectivement, après des générations, ça va devenir un peuple. Mais on voit que Dieu aime commencer par des choses petites et les faire grandir petit à petit. Ça rejoint plein de paraboles de Jésus où il parle de ce royaume qui est aussi petit qu'une graine de moutarde. Mais cette graine pousse et même les oiseaux viennent dans l'arbre qui a poussé avec cette graine. Dieu a le temps. Est-ce que nous l'avons? Probablement que c'est encore plus difficile pour nous que pour Abraham d'attendre que la promesse de Dieu se réalise. Simplement du fait de la culture. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite. C'est même stupéfiant par moments la rapidité avec laquelle nous pouvons obtenir un certain nombre de choses. Ou les informations que nous pouvons connaître avec juste un objet dans la poche, ce qui se passe de l'autre côté de la terre. Mais est-ce que ça change la manière de qui est Dieu par rapport à sa gestion du temps? Lui qui est hors du temps. Et je pense que lire la Genèse est une manière de nous aider à reconsidérer notre manière d'appréhender le temps, est à reconsidérer notre façon de s'attendre à la manière dont Dieu va agir dans nos vies, dans notre communauté, dans notre pays. Et peut-être d'aller un peu plus sur le terrain de la patience, de l'attente confiante. Et surtout, du travail de Dieu dans nos cœurs. Parce que finalement, ce qui se passe avec Abraham, c'est que Dieu travaille son cœur. Dieu invite Abraham à la confiance, alors il a fait un grand pas en partant, en suivant ce Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment, et il va dans ce nouveau pays. Mais ensuite, il y a plusieurs épisodes où on voit que Abraham un peu de peine à faire confiance à Dieu. Notamment, très rapidement, là, il part en Égypte, et puis on ne comprend pas très bien ce qui se passait selon les coutumes de l'époque, mais en tout cas, il avait très souci pour sa femme, et alors il donne un demi-mensonge en disant que c'est sa sœur, donc ce qui n'était pas tout faux puisque c'est sa demi-sœur, mais c'était quand même un mensonge, pour essayer de protéger sa femme par rapport à Pharaon qui voulait la prendre avec lui et qui l'a prise. Et puis finalement, Dieu intervient et permet que la situation se régularise et Abraham et Sarah peuvent repartir dans leur pays ensemble. Mais il y a un manque de confiance évident d'Abraham par rapport à Dieu. Et on voit que Dieu, bien, il travaille le cœur d'Abraham pendant toutes ces années. Il le travaille sur la dépendance, sur la confiance, sur la foi. Et malgré de graves erreurs qu'Abraham a faites, il est mentionné dans le Nouveau Testament qu'il est cet homme de foi, le père des croyants, celui auquel nous pouvons nous rattacher d'une certaine manière. Il est une image de Dieu au milieu de toute cette réalité. Dieu travaille le cœur d'Abraham au travers de toutes ces années. Pourquoi il a fallu 25 ans? Personne ne peut y répondre, seul Dieu le sait. Mais on sait que son cœur et le cœur de Sarah aussi ont été amenés à davantage de confiance. Même s'il répète certaines erreurs, juste avant la naissance d'Isaac, de nouveau Abraham part dans un autre endroit et il y a ce même scénario qui se passe avec Sarah, sa femme. Et finalement, voilà, Dieu permet que tout soit restauré et plus tard, il y aura cet enfant qui va arriver. Dieu travaille le cœur d'Abraham. Et ça, c'est hyper important. Parfois, on est tellement obnubilé par une promesse ou une autre que peut-être nous avons reçue de Dieu que nous voyons que le but, mais Dieu y voit tout le chemin qui permet d'y arriver. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Dieu travaille le cœur et nos cœurs à chacun d'entre nous. Dieu travaille pour l'éternité. Il a beaucoup plus de temps que nous. Parce que le fait qu'Abraham devienne une grande nation, ce n'est pas Abraham qui l'a vu. Ça semble peut-être évident, puis en même temps, ça l'était certainement pas si simple pour Abraham. Et finalement, même en vivant jusqu'à 175 ans, il n'a pas vu les nombreux descendants qu'il a eus. Il a pu simplement le croire par la foi. Je prends l'histoire de Joseph, puisqu'on en parle, puis c'est lui qui donne ce texte merveilleux dans Genèse 50-20 par rapport au pardon à ses frères. Mais au début, Joseph, il n'était pas prêt à pardonner. Au début, Joseph était un jeune homme arrogant, il était le préféré de son père, il reçoit une promesse de Dieu que ses frères vont se prosterner devant lui, ben il le clame à tout le monde. Et ben, vous voyez, Dieu est avec moi. Malheureusement, son histoire est assez tragique avec l'esclavage, la prison, différents épisodes qui, d'un autre côté, ressortent comme lui étant le premier ministre en Égypte. Mais pendant tout ce temps, Dieu travaille le cœur de Joseph. Pour enlever l'orgueil, pour enlever l'arrogance, pour qu'il puisse dépendre davantage de Dieu. Et d'ailleurs, même quand Joseph revoit ses frères qui viennent demander du blé parce qu'il y a la famine, eh bien, on voit très bien qu'au début, Joseph a encore pas mal de colère. Il essaye de tester, il essaye de voir, il est même un peu méchant avec une partie des frères. Il lui faut du temps pour vraiment guérir son cœur. Mais finalement, Dieu guérit petit à petit son cœur. Et à la fin, il peut effectivement donner cette parole qui manifeste toute la grandeur et la bonté de Dieu auprès d'hommes qui lui ont fait un mal effroyable. Il n'y a que Dieu qui pouvait permettre à Joseph d'étendre un tel pardon. Parce qu'en un claquement de doigts, il pouvait les faire éliminer, vu les pouvoirs qu'il avait au sein du gouvernement égyptien. Donc, Dieu a travaillé le cœur de Joseph. Et en lisant ces histoires sur plusieurs pages, et en méditant avec l'aide de Dieu et de son esprit, on réalise tout le travail en profondeur que Dieu fait dans ces hommes. Et que bien qu'il y ait une promesse ou des promesses, Dieu est fondamentalement intéressé par nos cœurs et par développer ce qui s'appelle la ressemblance à Dieu. Est-ce que vous avez des promesses que vous avez reçues pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, par rapport à un projet, par rapport à cette communauté? Certainement qu'il y en a. qui sont plus ou moins précises. Par rapport à cette promesse ou ces promesses qui peuvent être en attente, qu'est-ce que Dieu est en train de travailler dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu est en train de gratter ou de forger qui va permettre que tu sois plus à même d'habiter la réalisation de la promesse lorsque cela viendra? Quelle partie de ton être intérieur a besoin d'être ajusté, d'être raboté, d'être pétri encore une fois, et peut-être encore deux fois? Quelles aspérités de ton cœur qui peuvent avoir pour nom jalousie, comparaison, indépendance, confort, orgueil, suffisance? Quelles aspérités est-ce que Dieu est en train de travailler pour qu'elle laisse place à de l'amour et à davantage d'amour, laisse place à de la bienveillance ou à la maîtrise de soi, à la patience ou à la joie? Et Dieu a le temps, et il prend le temps de travailler ces choses en vous, en nous, en moi. J'ai donc entendu que vous avez été vendangé vendredi. Les vendanges, c'est la promesse d'un vin qui va arriver. Alors, je ne sais pas ce que vous avez récolté comme raisin, mais suivant le raisin que vous avez récolté, ça peut prendre plus ou moins de temps. Peut-être que le blanc sera prêt dans 6 mois, mais si vous avez récolté du merlot, du cabernet, ça va prendre certainement plus de temps, dépendant ce que le caviste ou l'œnologue va travailler. Alors peut-être que quand je vendange, je me dis « super, dans 6 mois, il y aura du vin », mais finalement, suivant le travail du vigneron, ça prendra 1 an ou 1 an et demi, ou plus peut-être. Alors, je ne sais pas ce que vous avez récolté.
Gamay,
ça sera peut-être prêt un peu plus vite. Non, non. Voilà, voilà, justement, il sera mis en barrique. Donc là, un petit indice, ça va prendre plus de temps. Est-ce que Dieu nous met en barrique parfois pour mûrir, maturer un peu plus et développer davantage de saveurs qui vont permettre à l'entourage de l'apprécier encore davantage? On est tellement pressé souvent. Je me souviens encore un peu en rigolant. Lorsque Dieu nous a appelés au ministère avec mon épouse, à un moment donné, ça faisait un ou deux ans qu'il nous avait appelés, puis on était en train de se dire, bon, quelle formation on veut faire? Puis on se disait, mais vraiment, il faut qu'on se forme très vite. Allez, 6 mois, on fait une école de GEM, éventuellement une deuxième école de GEM qui dure 6 mois, donc ça fait 1 an, mais pas plus, quoi. Il faut vraiment qu'on soit opérationnel rapidement, quoi. Puis Jésus revient bientôt. C'était il y a 25 ans, hein. Ou 30 maintenant. Et alors voilà, ça c'était nos idées, contenues pendant un moment, puis bon, après on a cheminé, et finalement on a fait des études beaucoup plus longues. On n'avait au début pas envie de réétudier, parce qu'on avait déjà fait tout un cycle à l'université. On n'avait pas envie de recommencer à 27-28 ans pour 3-4 ans d'études. Mais finalement, Dieu nous a conduits là-dedans. Et entre le moment où il nous a appelés et le moment où je suis devenu pasteur à la rive droite à Genève, il y a eu 10 ans. Mais heureusement qu'il y a eu ces 10 ans, parce que Dieu a travaillé bien des choses dans nos cœurs, dans notre manière de vivre, dans notre maturité. Bon, puis il a continué après, hein, ça, il ne s'est pas arrêté. Mais voilà, il y a eu tout un travail. Et si Dieu m'avait dit, mais voilà, engagez-vous, mais ça sera dans 10 ans que vous serez à un certain endroit, voilà, en tant que, disons, prêt pour débuter, j'aurais dit non, mais ce n'est pas possible. J'aurais pas eu envie, probablement. Heureusement que Dieu ne l'a pas dit. Et c'est en chemin que j'ai découvert, petit à petit, comment les choses se sont articulées et ont permis ce virage jusqu'à Genève. Genève était probablement l'un des endroits les plus loin de mon esprit en venant de Lausanne. Oui, j'ai pensé aller dans plein de pays du monde, mais pas à Genève. Dieu a ses chemins particuliers et il travaille dans nos cœurs, pour nous permettre d'avancer et de grandir intérieurement. Alors la question, c'est est-ce que je vais marcher au rythme de Dieu? Est-ce que je vais accepter sa cadence, qui, souvent à nos yeux humains, et peut-être encore plus dans notre culture, apparaît trop lentement. Est-ce que je vais privilégier le résultat ou la maturité du cœur? Puis je pourrais même poser une question encore plus embêtante. Se pourrait-il que le temps de la réalisation de la promesse soit décalé parce qu'il n'y a pas de changement dans le cœur ou dans le caractère? Que la promesse finalement ne se réalise pas parce que je reste borné sur un certain point où j'ose pas, où j'ai pas envie, où je refuse d'ouvrir mon cœur à Dieu qui a envie de travailler une certaine couche à l'intérieur de moi, ou travailler une relation dans ma famille avant d'aller plus loin, ou travailler ma persévérance dans la prière et l'intercession. Je me permets de poser cette question parce que on voit très bien que dans le peuple de Dieu, ça s'est passé. Il y en a qui ont passé 39 ans dans le désert alors qu'ils n'avaient pas besoin. Mais pendant un an, ils avaient été préparés par Dieu. Et à un moment où Dieu a dit « c'est bon, vous pouvez aller dans le pays de Canaan », mais c'est clair qu'il y avait encore un pas de foi à faire qui n'était pas simple. Puis ils ont refusé. Et malheureusement, ils ont tourné encore pendant longtemps. Et parfois, peut-être que la promesse de Dieu peut prendre du temps parce que nous-mêmes avons un peu de peine à nous ouvrir à ce que l'Esprit est en train de travailler en nous. Donc il y a beaucoup de questions, et c'est bien parce qu'on pourra en partager quelques-unes là ensemble. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu, il est fidèle et il est bon. Il a été fidèle avec Abraham en lui donnant une promesse, et même si ça a pris du temps pour qu'elle se réalise, même si Abraham a failli faire tout foirer à certains moments, eh bien Dieu a accompli sa promesse. Même si le peuple d'Israël a foiré aussi, Dieu a néanmoins accompli sa promesse. Et c'est ça qui est génial. Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Il va nous tenir, il va nous aider, malgré parfois nos erreurs. Il va nous permettre de nous relever et de poursuivre ce à quoi il nous a appelés. Et quelles que soient les promesses qui sont les vôtres, revisitez-les. Demandez à Dieu, peut-être d'activer, on va dire, mais en étant pleinement ouvert à sa manière à lui d'activer la promesse dans vos cœurs et dans vos relations. Dieu a le temps, son amour est là, et il se renouvelle chaque matin, et nous sommes invités à le suivre à son rythme. Avant de vous donner trois questions et de conclure, j'aimerais que l'on puisse prier. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce qui se manifeste dès les premières pages de la parole de la Bible. Merci parce que, comme tu as fait grâce à ces premières générations avec lesquelles tu n'as pas hésité à travailler, aujourd'hui encore, dans notre réalité, dans notre humanité, tu te révèles et tu fais grâce. Et Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te disons, aide-nous à avancer à ton rythme. Aide-nous à nous laisser inspirer de cette histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, afin de garder cette perspective pour les promesses que tu nous as données. Seigneur, je prie que tu souffles par ton esprit au milieu de nous ce matin et que tu encourages par ta parole, par la paix, par la joie, que tu encourages, que tu fortifies. Alors qu'on reste en prière, j'ai envie de faire un simple appel et si l'un ou l'autre parmi vous a l'impression que la promesse qu'il a reçue ne se réalise pas ou vous êtes comme au bout de vos forces par rapport à ce que vous avez reçu de Dieu, par rapport à une chose ou une autre, quelle qu'elle soit, j'aimerais t'inviter à lever la main et prier pour toi, pour vous. Seigneur, merci parce que tu es là, présent parmi nous. Je prie, Seigneur, pour cette sœur qui a levé la main afin que tu la bénisses. Et que tu viennes tout près d'elle par ton esprit. Prends-la dans tes bras pour le pas ou les pas à venir. Seigneur, je prie que tu chuchotes à son oreille ce qu'elle a besoin d'entendre ce matin, ces prochains jours, afin de pouvoir retrouver de l'espérance et continuer à s'attendre à toi, même si cette promesse semble se faire beaucoup attendre. Pendant que l'on chantait ce matin, le chant qui disait « Je suis un enfant de Dieu », j'avais l'impression que c'était en tout cas une des réponses par rapport à cet appel. J'aimerais vous inviter, ma sœur, à comme vous focaliser, vous concentrer sur cette réalité que vous êtes son enfant. Et puiser dans cette richesse, dans cette grâce, et ne pas vous lasser de réaliser que vous êtes son enfant, sa fille, sa bien-aimée. Merci Seigneur pour ce que tu opères dans les cœurs aujourd'hui. Merci parce que nous pouvons avancer avec toi, cheminer et compter sur toi. Comme Abraham a appris à faire confiance en toi, Seigneur, aide-nous à te faire confiance aussi. Amen.